Bon, on démarre?
Oui.
Oui. Donc, je présente notre troisième intervenante, Barbara Fontin, qui est donc agrégée d'anglais au lycée Henri Martin de Saint-Quentin et actuellement doctorante en civilisation britannique à Paris 4, sous la direction de Claire Charlot. Et donc, vous préparez actuellement une thèse intitulée Vers une révolution sexuelle, entre guillemets, et point d'interrogation, l'accès aux méthodes de contrôle des naissances en Angleterre de 1918 à 1967. Et on va immédiatement voir le lien avec la présentation que vous allez nous faire aujourd'hui, puisque vous allez nous parler de la question de l'avortement. Dans Up the Junction de Ken Loach, et quand effectivement la réalité rejoint la fiction. Donc je vous laisse la parole pour la demi-heure prévue. À vous, Barbara.
Merci Florence. Alors je vais partager mon écran puisque j'ai un PowerPoint. Pourvu que tout marche.
On avait cédé tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison. Super.
Oui.
À partir du
Et
début.
diaporama. Ok, normalement c'est bon.
C'est bien, on voit tout.
Ok, très bien. Donc, je vais vous parler du film donc Up the Junction. Pour, si jamais ça vous intéresse, il est dans son intégralité sur YouTube. Donc, vous pouvez le regarder sans aucun problème. Donc, les années 60, la décennie des années 60, surnommée les Swinging 60s, est caractérisée par un vent du changement qui souffle sur l'ensemble de la société britannique. Et cela est notamment dû à un renouveau politique, puisque les travaillistes arrivent au pouvoir en 1964 avec Harold Wilson, qui a ainsi mettre fin aux 13 années gâchées par les gouvernements conservateurs qui se sont succédés entre 1951 et 1964. Le but affiché de ce gouvernement travailliste est de bâtir une société civilisée, selon l'expression de Roy Jenkins,
alors ministre de l'Intérieur. Et cette société civilisée transparaît dans nombre de lois adoptées pendant cette décennie, comme par exemple les lois relatives aux relations raciales de 1965 et 1968, la dépénalisation de l'homosexualité et la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en 1967, et enfin l'abolition de la peine de mort en 1969. Les années 60 sont aussi l'époque du quasi plein emploi et de la société de consommation et culture de masse qui vont de pair. On lit par exemple dans le BBC Year Handbook de 1965 qu'au printemps 1960, 80% de la population ont accès à la télévision et ce chiffre monte à 90% en 1964. Et en 1963-1964, les Britanniques regardent en moyenne la télévision 14h40 chaque semaine. Donc ce qui montre bien que la télévision occupe une place de plus en plus importante dans le salon des maisons britanniques, garantissant ainsi un accès facile aux informations et aux divertissements. Ce vent du changement, bien sûr, apporte un nouveau visage à la société britannique et les jeunes veulent se démarquer des générations précédentes et c'est pour ça que c'est le grand succès de la musique rock et des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones et les Radio Pirates. Des grands changements vestimentaires aussi avec l'apparition et le grand succès de la mini-jupe et surtout une libération des mœurs qui entraîne bien sûr une révolution sexuelle. C'est bien entendu la commercialisation de la pilule en 1961, mais qui reste accessible uniquement aux femmes mariées dans un premier temps. Et en 1964, l'ouverture du premier centre de planning familial à destination des femmes célibataires. Donc c'est toute cette atmosphère de changement qui a été captée par Nell dans son livre « Up the Junction » paru en 1963. Et dans ce livre, en fait, la narratrice est une jeune femme qui est originaire du quartier de Chelsea, donc quartier cossu de Londres, et qui s'installe dans le quartier ouvrier de Battersea. Donc, elle travaille à la chaîne dans une usine de confiserie et se lie d'amitié avec deux de ses collègues, Sylvie et Ruby, qui sont sœurs. Et donc, la semaine, les jeunes femmes, ces jeunes femmes travaillent dur et le week-end, elles aiment s'apprêter, sortir, flirter, bref, profiter de leur jeunesse et profiter de la vie. Donc, le livre de Neldon est en fait un recueil de courtes histoires dont le fil rouge est ce trio féminin. Et donc, comme je l'ai dit, leur quotidien est fait de travail et de sortie et on a aussi des potins et échanges de femmes, que ce soit sur le lieu de travail ou dans le quartier, et aussi, bien entendu, d'avortements clandestins. Et c'est pour ça que dans sa préface, Neldon écrit « Abortion was illegal too, but names were passed around and many young women ended up in the local hospital with perforated wombs ». Et c'est cet aspect qui a retenu toute l'attention de Ken Loach et qui va nous intéresser ici, puisque Ruby, une jeune femme de 17 ans, enceinte de Terry, son petit ami, refuse de garder l'enfant. Et donc, l'avortement clandestin est mis en avant dans le film et la scène de l'avortement a profondément marqué les esprits. Le film a donc eu des répercussions nombreuses et variées. Donc, le film de Ken Loach a été diffusé le 3 novembre 1965 au cours de la troisième saison des Dramatiques du mercredi, en anglais Wednesday Plays. Et le film apparaît et se revendique comme étant bien plus qu'une simple fiction. Donc, les Dramatiques du mercredi sont une série de pièces télévisées diffusées sur BBC One tous les mercredis soirs à partir de 21h40 entre 1964 et 1970. En 1965, année qui nous intéresse, le programme réunit en moyenne 7,3 millions de téléspectateurs chaque semaine. Et dans un pays qui compte alors 54,3 millions d'habitants, cela représente environ 13% de la population. Et les Dramatiques du mercredi s'inscrivent dans le paradigme du changement et de la modernité, notamment grâce à ses pères fondateurs. Donc la paternité du programme est attribuée à Hugh Carlton Green, qui était alors directeur général de la BBC pendant toutes les années 60 et qui s'est lancé dans un programme de refonte complète de la BBC afin de lui donner un nouveau souffle, mais aussi pour faire face à la concurrence d'ITV, chaîne privée créée en 1955. Il se qualifie d'homme innovant et il valorise la prise de risque de ses employés. Et ce qu'il souhaite, c'est tendre un miroir à la société britannique, alors en pleine mutation, afin de mieux la confronter à la réalité, à sa réalité et aussi à ses défauts. Le second parent du programme est James McTaggart, producteur à partir de la deuxième saison des Dramatiques du mercredi. Et selon lui, le programme occupe un espace de service public et en tant que tel, il est investi d'une mission politique, qu'il le veuille ou non. Et le troisième parent est Sidney Newman, qui a été mentionné plus tôt ce matin. Et donc, il a été recruté par Hugh Carlton Green afin de réformer le service fiction de la BBC. Pour lui, une fiction se doit d'être l'emblème d'une contemporanéité bouillonnante et donc doit montrer des sujets qui sont en prise avec la réalité pour inviter les téléspectateurs à réfléchir et aussi éventuellement à réagir. Et en faisant des sujets qui sont totalement ancrés dans le réel, cela permet selon lui de rendre les frontières entre fiction et réalité beaucoup moins poreuses. Et donc ainsi, il est aussi en accord avec la demande de ses supérieurs hiérarchiques, Hugh Carlton Green, et l'objectif de la BBC qui est d'éduquer, divertir et informer. Et donc pour ce faire, il s'entoure du duo Ken Loach-Tony Garnett. Donc Ken Loach était alors un jeune réalisateur pour la BBC. Il avait notamment réalisé quelques épisodes de la série policière Zed Cars. Et Tony Garnett était aussi un jeune producteur qui partageait en fait l'objectif social et réaliste des œuvres télévisées. Et donc en fait, c'est vraiment c'est la rencontre et l'alliance de tous ces hommes dans le contexte bien particulier des années 60 qui donne naissance à Up the Junction, qui est, comme je l'ai dit, plus qu'une simple fiction, puisque en fait, c'est une œuvre à la fois hybride et novatrice. Donc, elle est novatrice parce qu'on a un véritable bouleversement de la forme. Le lieu de tournage privilégié jusqu'alors était le studio. Mais selon Tony Garnett et Ken Loach, ce lieu présente des limites, puisqu'on dans un studio, on ne peut pas imiter la société et capter certaines choses, comme par exemple le mode de vie de la classe ouvrière. C'est donc pour cette raison qu'ils ont décidé de sortir les caméras du studio et de les placer en décor réel, c'est-à-dire en plein cœur de Battersea. Et Ken Loach a déclaré dans une interview que ce qui l'intéressait, lui et son collègue Tony Garnett, c'était d'être dans le monde où vivent les gens et transférer le drama, c'est-à-dire les événements qui arrivent à autrui, dans le domaine de la vraie vie telle qu'elle est vécue. Donc ainsi, le film prend des allures de chronique sociale puisque les problèmes et les inquiétudes inhérents à une catégorie sociale particulière deviennent de véritables problèmes auxquels il faut trouver une solution le plus rapidement possible. Et donc on a ça transcende en fait les classes sociales. Et l'œuvre est également hybride de par son genre puisque c'est un docudrama. Donc docudrama, c'est un mot valise composé de documentary et drama. Et le docudrama est en fait l'héritier du free cinema qui a été en vogue à la fin des années 50, entre 1956 et 1959. Et qui, donc le free cinema a donné un nouveau souffle au genre documentaire en mettant l'accent sur le quotidien avec une volonté délibérée de sortir les caméras du studio et avec aussi un recours, par exemple, à la pellicule 16 mm. Donc, même si le free cinema a une durée de vie relativement courte, il a été rejoint par d'autres genres comme le réalisme social qui faisait des films vraiment proches de la réalité. Et c'est aussi ce qu'on a appelé le réalisme dévié de cuisine, dont les films portaient une attention toute particulière à la classe ouvrière et aux difficultés de son quotidien. Donc, Up the Junction, en plus d'être une fiction, a aussi une véritable dimension documentaire, avec notamment le recours à des techniques journalistiques comme le 16 mm, qui était souvent utilisé dans les documentaires télévisés et les programmes d'information, et aussi le recours à la voix off et au gros plan face caméra. Donc, pour citer un exemple, on a par exemple Ruby on a un gros plan face caméra sur Ruby lorsqu'elle se livre sur les raisons qui l'ont conduite à accepter une relation sexuelle avec son petit ami. En fait, elle dit tout simplement qu'elle est amoureuse de lui et donc elle a cédé à ses demandes. Donc, les techniques venues du monde journalistique, donc 16 mm, voix off, donc l'utilisation de ces techniques est tout sauf anodine, puisqu'en fait, les dramatiques du mercredi étaient diffusées juste après le dernier journal télévisé de la journée. Et donc, Ken Loach et Tony Garnett ont fait le choix de conserver une certaine fluidité, continuité avec le programme qui précédait. Et c'est pour cela que Ken Loach a déclaré dans une interview: "It was very much to do with our programming slot. For about 40 weeks, the Wednesday plays aired every Wednesday at 9 p.m. after the late evening news. We were very anxious for a place not to be considered dramas, but as continuations of the news." Et donc, l'avortement, en fait, dans Up the Junction vient s'insérer vraiment au milieu du film, en plein cœur, comme si, en fait, il voulait créer un nœud, un lien entre la fiction et la réalité, entre ce qui vient avant et ce qui va suivre. Et donc, l'avortement dans ce film est une longue séquence qu'on pourrait découper en cinq parties, un petit peu à la manière d'une tragédie en cinq actes. Donc la première partie, ça serait le prologue ou la scène d'exposition, avec en fait toute une succession d'images de femmes enceintes ou de jeunes mères, et avec des voix off, donc des voix off féminines qui sont en fait autant de confessions sur leurs expériences toutes personnelles de la sexualité et de la maternité. Le point commun de tous ces témoignages, c'est que sexualité et maternité ne sont pas des expériences franchement positives, puisqu'il y a un manque de connaissances sur son propre corps, sur le corps du partenaire, et aussi une absence de plaisir. On a une jeune femme qui dit « I never once lay down with him. I used to meet him in the back alley. » Et une autre dit « I never got no pleasure out of it. » Il est intéressant de noter qu'en fait, ces voix off ne sont pas inventées pour les besoins du scénario, mais sont en fait des extraits du livre de Nell Dunn. Donc en fait, en utilisant des extraits du livre, il semble que Ken Loach utilise la fiction pour illustrer une réalité particulière et ainsi donner une voix, ou en tout cas des voix, à d'innombrables femmes d'extraction modeste. La deuxième partie, ça serait l'élément perturbateur, donc ici le désir d'avorter de Ruby, Donc, on a un court échange entre Ruby et une jeune femme de son quartier qui sert en fait d'intermédiaire à Winnie, l'avorteuse qu'elle rencontrera un peu plus tard. Donc là, on a tous les procédés classiques. Par exemple, Ruby feint de se renseigner pour une collègue de travail, mais son interlocutrice n'est pas dupe. Elle sait très bien qu'elle se renseigne pour elle. Et éventuellement, le téléspectateur, qui n'est peut-être pas très au courant, apprend quel est le tarif pour une IVG clandestine. Donc, il en coûtera 5 livres à Ruby. Donc, 5 livres en 1965, ça fait environ 82 livres aujourd'hui. Donc, ce qui est quand même une somme pour une jeune fille ouvrière, mais Ruby ne recule pas et elle demande un rendez-vous dès le lendemain. Donc l'acte 3, donc on voit Ruby qui se dirige vers le domicile de cette avorteuse accompagnée de son amie, de son intermédiaire pardon, et de sa sœur. Et on a une voix off d'un homme qui se fait entendre et cet homme se révèle être médecin et il nous livre un témoignage plutôt glaçant. Puisqu'il nous dit que chaque semaine dans son cabinet, il rencontre au moins une femme qui envisage un avortement clandestin et que... En plus des 35 décès annuels directement imputables aux IVG clandestines, la conséquence la plus banale mais la plus dramatique selon lui est la stérilité de toutes ces femmes qui ne pourront plus jamais avoir d'enfants plus tard. Pour le quatrième acte, donc on est chez Winnie, on a un échange entre Ruby et Winnie, et en fait Winnie ne se formalise pas vraiment, et au contraire, on a l'impression même qu'elle fait ça purement par solidarité féminine. Elle va même jusqu'à accepter que Ruby la paye un petit peu moins que les 5 livres prévus, puisque Ruby n'a que 4 livres sur elle. Et ensuite, on voit Ruby rentrer chez elle et en fait, on a là plusieurs voix off qui se font encore entendre, comme un peu une sorte de chœur antique revisité. Et on a en fait surtout la voix off du médecin qui nous fait part encore de chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et là, il nous parle en fait du faible taux de mortalité de l'IVG lorsqu'elle est faite en milieu hospitalier. Et en fait, il révèle que l'opération est même plus sûre qu'une amygdalectomie, puisque le taux de mortalité pour l'IVG est de 6 morts pour 100 000 cas et de 17 morts pour 100 000 cas pour l'ablation des amygdales. Et enfin, le dernier acte, c'est le dénouement, donc l'expulsion du fœtus, ici la naissance avortée, qui a lieu dans la chambre d'adolescente de Ruby. Donc on a un gros plan face caméra sur elle, où on la voit hurler de douleur, le visage perlé de sueur, elle est secouée par les spasmes et les contractions. Et donc, le téléspectateur ne peut éprouver qu'horreur, mais aussi empathie face à ce qu'elle est en train de subir. Et cette scène se termine sur une note tragi-comique. Donc, tragique puisque le médecin se fait à nouveau entendre et nous livre encore des chiffres en disant que chaque année, 52 000 avortements ont lieu, c'est-à-dire 1000 par jour, c'est-à-dire 5 à 6 chaque heure de chaque jour, et ça, c'est en prenant le chiffre minimum. Donc, clairement, chaque jour, entre 120 et 150 femmes subissent le même calvaire que Ruby. Et pour la note ironique qui vient clore cette séquence, c'est la chanson Yes de Benny King, dont les paroles relatent une relation sexuelle qui est acceptée par une jeune femme. Donc pourquoi est-ce que Ken Loach a décidé de traiter de ce sujet de l'avortement? Donc comme dit précédemment, il semble répondre complètement aux exigences de la BBC et de ses supérieurs hiérarchiques, Hugh Carlton Green et Sidney Newman. Mais en plus de cela, Tony Garnett avait également des raisons toutes personnelles. En effet, en 1941, alors qu'il était âgé de 6 ans, sa mère était enceinte d'un troisième enfant. Il faut préciser que la famille Garnett était une famille catholique pratiquante. Mais dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, les parents ont jugé préférable de ne pas garder l'enfant. Et donc la mère a eu recours à un avortement clandestin, avortement qui a mal tourné puisqu'elle a fait une septicémie et est décédée des suites de cette septicémie. Et ne supportant pas la perte de son épouse, le père de Tony Garnett a mis fin à ses jours moins d'un mois plus tard. Donc, Tony Garnett. Donc, l'avortement clandestin a été une véritable tragédie et a laissé Tony Garnett orphelin de mère et de père. Ken Loach n'a pas d'histoire personnelle aussi intimement liée avec l'avortement clandestin. Pour les besoins de cette intervention, j'avais essayé de le contacter pour une interview. Il n'a pas pu me recevoir, mais il m'a quand même donné quelques pistes de réponse. Et donc, ce qu'il voulait faire en faisant ce film, c'était montrer les difficultés, les épreuves et les souffrances, qu'elles soient physiques ou morales, de toutes ces femmes, un peu dans leur ce qu'on pourrait qualifier de réel parcours du combattant, dans une société pour mettre un terme à une société à une grossesse dont elles ne voulaient pas, dans une société où la majorité de la population était favorable à l'IVG et au droit des femmes à disposer de leur corps. En effet, le contexte est assez important et il faut le prendre en compte puisque dès l'entre-deux-guerres, les ravages de l'avortement clandestin se sont trouvés au cœur de plusieurs enquêtes parlementaires, la plus importante étant celle de 1939, Interdepartmental Committee on Abortion, aussi appelé le Burkett Committee selon le nom de son président. Mais en fait, donc, elle est parue en 1939 et donc la guerre est venue mettre un coup de frein à cet intérêt pour la question, mais il y a eu un regain d'intérêt après la guerre, avec notamment la publication du rapport de la Commission royale sur la population en 1948, qui s'est montré très favorable à la contraception mécanique, c'est-à-dire dispositif intra-utérin et préservatif, et qui a qualifié l'avortement de mal social grave. Et l'atmosphère de révolution des années 60 semble indiquer que le moment est venu de passer à l'action. Et pour cela, deux événements ont largement contribué à rendre le sujet prédominant. Donc tout d'abord, c'est la parution en 1960 du livre « Law for the Rich » d'Alice Jenkins, qui dénonçait une pratique à deux vitesses. Donc les femmes aisées pouvaient accéder à des IVG médicalisées dans des cabinets médicaux de Harley Street. Et les femmes qui n'avaient pas d'argent avaient recours à la faiseuse d'ange du quartier dans des conditions sanitaires souvent déplorables et avec les conséquences tragiques qu'on connaît. Et le deuxième événement, c'est le scandale de la thalidomide qui a éclaté en Europe en 1961. Donc la thalidomide était un médicament souvent prescrit aux femmes enceintes afin de lutter contre les nausées matinales et il était également prescrit comme somnifère léger. Mais en fait, les femmes qui prenaient la thalidomide ont donné naissance à des enfants gravement difformes. Beaucoup sont morts, mais certains ont survécu et ont atteint l'âge adulte. Et donc, c'est toute l'horreur suscitée par ce scandale et les difficultés des petites victimes et de leurs familles qui a permis à ALRA, le Abortion Law Reform Association, qui était un groupe de pression qui travaillait à l'adoption d'une loi autorisant l'IVG en Angleterre, a trouvé de nouveaux alliés. Et parmi ces nouveaux alliés, on a bien sûr l'opinion publique. Et de nombreux sondages ont été menés dans les années 60, mais deux sont vraiment ressortis. Celui de juillet 1962. La question posée était « Would you be in favor of a change in the law allowing doctors to terminate pregnancy where there is a good reason to believe that the baby would be born badly deformed ?» Là, 72% des sondés se sont révélés être en faveur d'un changement de la législation et 23% étaient défavorables à un changement. Et en mars 1965, un second sondage, « Should abortion be legal ?» Deux tiers des personnes étaient favorables à un changement à certaines conditions. Donc, pour en revenir au film, les réactions étaient immédiates et à plusieurs niveaux et la fulgurance en fait des réactions montre que grâce au film, Ken Loach et Tony Garnett ont largement remporté le pari de faire un film dont on allait parler. Donc, tout d'abord dans la population, directement après la diffusion du film, le standard téléphonique de la BBC a littéralement été pris d'assaut. Sidney Newman, qui était présent dans les locaux ce soir-là, a recensé 514 appels, dont un peu plus de 100 en une heure. Et bien sûr, on a eu des réactions positives et des réactions négatives. Pour les réactions négatives, on avait des personnes mécontentes des dialogues directs, voire crus, des personnes horrifiées par la scène de l'avortement, et le programme a été qualifié d'ordurier, what a load of rubbish, et de hautement scandaleux, utterly disgraceful. Mais bien sûr, il y a eu des critiques dithyrambiques quand même aussi. Des personnes ont salué l'audace et le réalisme du film. Par exemple, un vicaire qui était président d'une association qui venait en aide aux mères célibataires a qualifié le film de courageux et utile, courageous and useful, tandis qu'un policier a partagé sa satisfaction quant à la justesse du film en disant que tout simplement, c'était la vie, it's life. Un peu plus d'un mois plus tard, le BBC Audience Research a publié son rapport le 7 décembre 1965. Donc le BBC Audience Research, c'est l'organe de sondage de la BBC. Et sur 302 personnes interrogées, là encore, en fait, c'est très, très partagé, en réaction négative et positive. Donc pour les réactions négatives, le film est jugé trop vulgaire, dégoûtant, dégradant, inutilement sordide, too coarse, disgusting, unnecessarily sordid, mais pour les réactions positives, il a été jugé de captivant, compulse viewing, et le film a été salué pour son réalisme et aussi pour la force de sa scène phare, c'est-à-dire la scène de l'avortement. La qualité du jeu des acteurs est également soulignée, puisqu'il a été qualifié d'incroyablement naturel et réaliste. Et une personne interviewée a résumé le programme en disant que quiconque se plaignait de ce programme, en gros, se plaignait de la vie elle-même. Anyone who complains about this program is complaining about life itself. La presse spécialisée s'est également parlé du sujet. Quand je parle de presse spécialisée, en fait, je veux parler du Listener, l'hebdomadaire publié par la BBC, qui présente des critiques de programmes télévisés, radiophoniques, mais aussi de romans. Et dans son numéro du 11 novembre 1965, deux articles parlent du film, et les articles sont tous les deux positifs. Donc, dans le premier article, Television, l'auteur fait état quand même de quelques défauts mineurs, par exemple dans la manière dont le film est tourné, mais il qualifie le film de belle avancée cinématographique. Et dans le deuxième article, Drama and Light Entertainment, l'auteur se félicite de la tendance récente des pièces télévisées à être didactiques et salue le recours aux techniques coup de poing, sans exagération, dans une propagande honorable contre les horreurs de l'avortement clandestin. Mais le film n'a pas fait que des heureux. Parmi ses opposants, on peut compter bien sûr Mary Whitehouse, qui était une militante et qui s'est lancée dans une féroce croisade contre la BBC, notamment à partir de 1964 et la création de la campagne Clean Up TV, puisqu'elle tenait la BBC comme responsable de la dégradation des mœurs de la société. Fin 1965, elle a été grandement choquée par deux programmes diffusés sur la BBC. Le premier, 24 Hours, qui parlait des cliniques de planning familial et notamment d'une séquence sur le sexe prénuptial. Et bien sûr, le film Up the Junction. Suite à ces deux programmes, elle a envoyé deux lettres à Kenneth Robinson, qui était alors ministre de la Santé, membre du gouvernement travailliste de Harold Wilson. Dans la première lettre, elle s'inquiétait des conséquences sociales et politiques de la promiscuité. Et elle demandait à ce que le ministre de la Santé recadre Hugh Carlton Green. The social and political consequences of promiscuity on the health of the nation could be so grave that we are of the opinion that the time for drastic action has come. Et dans la deuxième lettre, donc datée du 4 novembre 1965, soit le lendemain de la diffusion du film, elle condamne la BBC pour son entêtement à montrer la promiscuité comme normale. It would appear that the BBC is determined to do everything in its power to present promiscuity as normal. Et elle sollicite également une rencontre avec le ministre. Mais cette rencontre, en fait, n'aura jamais lieu, puisque Kenneth Robinson était plutôt favorable au changement qui avait cours dans les années 60. En 1961, alors qu'il était encore député travailliste à la Chambre des communes, il a fait une proposition de loi en vue de la légalisation de l'IVG. Et selon cette proposition de loi, l'IVG devait être légale si la grossesse représentait un risque pour la vie de la mère, si la grossesse était la conséquence d'un viol ou d'un inceste, l'IVG devait être limité à 13 semaines d'aménorrhée Et aussi, le médecin était protégé de toute action en justice s'il avait agi dans l'intérêt de sa patiente. Mais les députés catholiques ont en fait massivement rejeté cette proposition. Et en fait, entre 1952, avec une première proposition de loi par Joseph Reeves, jusqu'en 1967, on a eu plusieurs propositions comme ça qui sont toutes soldées par des échecs. Je rappelle que l'avortement a été légalisé en 1967 avec la loi de David Steele. Donc le 30 novembre 1965, c'est le premier débat de proposition de loi de Lord Silkin à la Chambre des Lords. Alors pour préparer cette intervention, j'ai lu beaucoup d'articles et beaucoup disent que en fait c'était la proposition de loi de David Steele qui était en débat au Parlement à ce moment-là. Mais non, en fait, on a un problème de date. C'est vraiment la loi Silkin. Puisqu'en fait, le premier débat pour la proposition de loi de David Steele ne sera qu'en juillet 1966. Donc, c'est quand même quelques mois plus tard. Et donc, pendant ce premier débat à la Chambre des Lords, le film est mentionné deux fois par Lord Stoneham, travailliste et ancien député de la circonscription londonienne de Shoreditch et Finsbury. Donc, dans sa première mention, il dit qu'il comprend l'argument principal des partisans à une légalisation de l'avortement. Et donc, l'argument principal, c'est que le nombre élevé d'IVG clandestines a très souvent des conséquences désastreuses. Et donc, quiconque a vu le film ne peut avoir de doute sur la nature du mal dont ils sont en train de parler. No one who saw the television film Up the Junction can have any illusions about the nature of the evil we are discussing. Et il fait encore référence un peu plus tard au film. Cette deuxième référence peut être vue comme une manière de désamorcer certaines tensions, puisqu'il précise que l'IVG ne sera pas une IVG à la demande, mais sera au contraire régie par un cadre bien précis et donc sera autorisée uniquement lorsque le fœtus sera soupçonné d'être gravement difforme, puisqu'on est encore sous le choc du scandale de la thalidomide, lorsque la grossesse représente un risque pour la santé et ou la vie de la mère, et lorsque les conditions sociales de la mère seraient un obstacle pour l'éducation et l'épanouissement de l'enfant à naître, ou bien pour les enfants déjà existants dans la fratrie. Et donc il dit « You will not be legalizing abortion at will. The bill would not, for example, affect the type of case portrayed in the television film to which I have referred. » Et donc, le film, donc Up the Junction, semble avoir participé de manière très discrète, on pourrait peut-être dire anecdotique, mais je préfère dire très discrète, au débat et a donc apporté matière à réflexion jusque sur les bancs du Parlement. Et donc, pour conclure, le film est une adaptation fidèle du roman et aussi de la réalité des femmes de l'époque. Et l'audace montrée par Ken Loach et Tony Garnett s'est révélée être une stratégie particulièrement judicieuse. Et le mariage entre fiction et technique journalistique comme voix off, 16 mm, est un mariage plutôt heureux. Le film n'a laissé clairement personne indifférent puisqu'il a fait réagir, que ce soit dans la presse, dans la population ou jusqu'au Parlement, ce qui montre bien la puissance de la télévision et également la portée universelle des questions de sexualité et d'avortement. Et le film aura un impact durable puisqu'en juin 1966, une rediffusion était prévue, mais cette rediffusion a relancé la polémique de novembre 1965. La BBC avait le choix, elle pouvait très bien retirer le film qui faisait en parler, mais cela signifiait la victoire de Mary Whitehouse et du lobby pro-vie. La BBC a supprimé le film, mais à la place, a décidé de diffuser l'émission 24 Hours sur le terme des avorteuses. Et ceci peut être vu comme un pied de nez fait aux anti-IVG, mais aussi comme une manière de tendre un miroir à la société britannique, toujours pour lui montrer sa réalité et certains de ses défauts. Et ça a permis aussi à la BBC d'exprimer son opinion dans le débat, en s'écartant donc de son principe d'objectivité, mais tout en respectant ses principes et ses objectifs d'éducation, d'information et de divertissement. Merci.
Merci Barbara, c'était vraiment très instructif et je pense que ça montre ce genre de présentation que tu fais là, combien le contexte est important pour comprendre une fiction. Moi, je sais que je viens de la littérature et bon, je suis passée à l'adaptation filmique et puis à l'adaptation télévisuelle. Donc, je vois très bien ce que tu as fait là comme travail. C'est vrai que le moment où on programme le film, c'est très important, tu l'as dit, après le journal, etc. La concurrence d'ITV qui avait un agenda assez progressiste et la BBC doit rivaliser avec ça. Le kitchen sink drama, les méthodes techniques de filmage hein, dont tu as parlé, le 16 mm, le face caméra, la voix off, etc. Enfin, je pense que vraiment pour les étudiants qui écoutent là, ça donne aussi l'ampleur du sujet hein, qu'ils doivent traiter avec cette question sur la BBC. Mais je crois que ça leur montre aussi la richesse et toutes les pistes qui peuvent être tirées à partir d'un case study, hein, puisque là, c'est vrai que ça peut paraître très pointu, mais je pense que le pointu révèle beaucoup de choses sur la question de la BBC et sur la question de la société britannique de l'époque. Donc, je ne sais pas si mon wrap-up permet à certains de poser des questions. Oui, je vois la question de...